Brume 90.7, nouvel entretien Confluence Cinéma. Et on vous l'avait promis, c'est bien sûr un spécial festival Lumière aujourd'hui. Je suis en compagnie de Raphaël Lorenzo et de François Rey, nos deux chroniqueurs cinéma du jour. Bonjour à vous messieurs.
Bonjour à tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Alors comment ça se passe un petit peu ce festival pour vous? Est-ce que c'est un bon cru? On est presque à mi-parcours j'ai envie de dire. Alors il n'y a pas eu encore forcément les plus gros événements mais ça a déjà quand même bien commencé.
Bah là on attend surtout maintenant Keanu Reeves et Pedro Almodovar qui sont quand même les deux gros stars, les deux grosses vedettes du festival.
Et qui ne sont pas encore là.
Voilà et c'est le bémol que je mettrais sur le festival, c'est que voilà il y a beaucoup de
Après il y a eu quand même Faye au début quoi.
Hein?
Il y avait quand même Faye Dunaway qui était là quoi.
Ouais, mais tu vois, elle n'est pas restée. Et puis, c'est vraiment un truc assez ponctuel, quoi. C'est pas une rétrospective super grosse non plus autour de Fedonomo. Il y a quelques films, exactement. Mais c'est pas super accentué. Voilà, il y a beaucoup de stars qu'on a déjà croisées dans les précédents festivals. Et on sent quand même qu'il y a une moins bonne ambiance que Tarantino, quoi. C'est moins électrique, c'est moins rock'n'roll, quoi.
Ça allait forcément être en dessous de l'ambiance de l'année dernière. Mais niveau programmation, on est quand même sur du très bon.
Ouais, ce que j'allais dire.
On est toujours sur du très bon.
Les films sont excellents.
Ouais. Et c'est vrai qu'au niveau des invités, on est sur de la redite déjà depuis 2-3 ans.
Bah, c'est vrai que quand on voit là, moi j'étais à l'ouverture et c'est vrai que quand j'ai vu les invités défiler sur le tapis rouge, j'avais l'impression d'être un an en arrière,
sauf
à
Quentin.
Certains moments quoi. Sauf Tarantino et un ou deux. Non mais je veux dire, tu vois, c'est vrai que Chasberg, Anconina, Vincent Pérez, Laurent Gérard,
Chimino.
Oui, Chimino.
Il y en a quand même pas mal qui étaient déjà là quoi.
Ouais, mais par contre, les films, effectivement, sont vraiment au rendez-vous. Il y a des très, très bonnes surprises et des sélections, je trouve, assez pointues et assez surprenantes.
Que ce soit dans le classique ou la restauration et des rétrospectives sur des films qu'on ne pouvait pas forcément s'attendre à voir ici, comme je pense à SOS Fantôme ou Rambo.
Alors du coup, François, un petit peu, on va parler en quelques mots comme ça de cette soirée d'ouverture, parce que c'était quand même un des gros événements du festival. Moi, c'est vrai que j'ai été un petit peu déçu, j'avoue, au début, sur ces histoires de clips qu'on nous montre tout le temps. J'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de redites par rapport à l'année dernière, y compris dans la construction un petit peu de la soirée. Mais voilà, alors moi, c'est vrai que j'aime particulièrement bien Faye Dunaway. Et du coup, j'ai trouvé que c'était quand même un beau moment et ça avait quand même bien mis quelque chose dans la soirée, le moment où elle a pu parler. Et comme toujours, quand même, l'excellentissime Tavernier qui vient éclairer quand même de son savoir l'histoire des films et tout ça. Enfin voilà, la partie juste avant la projection du film, c'est vrai que ça marchait bien, quoi.
Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on s'attend toujours, on connaît le fonctionnement maintenant depuis, c'est la cinquième édition, c'est ça ?
Sixième
édition, où tu sais que tu vas avoir le clip de l'année dernière, le clip de cette année, le clip sur l'invité, quelques projections des films des Frères Lumière qui étaient très drôles, c'était celui sur des jongleurs. Malgré tout, c'était quand même, j'ai trouvé ça chargé en émotion, ça faisait vraiment plaisir de pouvoir assister à ça. Alors c'est vrai, comme toi, j'adore Faye Dunaway et ça permet
ce film est quand même sympa. Je trouve que pour démarrer c'est bien parce que on est vraiment à cheval sur deux genres. Enfin, je pense que ça pouvait plaire à pas mal de gens, quoi.
Oui, complètement. Ça m'a un peu rappelé l'ouverture avec Chantons sous la pluie où on était sur une soirée à l'opposé de ce qu'on allait voir sur tout le festival, mais ça, on ouvrait le festival d'une façon assez classe et officielle.
D'accord. Alors, qui commence ? Raphaël, tu nous fais peut-être un petit... Tu nous parles un petit peu de ce que tu as vu. Alors, toi, tu as privilégié Sautet au début un petit peu.
Oui, Claude Sautet. Choix étonnant de ma part, sachant que j'aime que les films américains. Et je suis allé voir ce cinéaste-là que je connais pas trop. J'ai vu 2-3 de ses films ou des extraits. Et j'étais très, très agréablement surpris, comme beaucoup d'autres collègues à nous qui découvrent Sautet. Il y a beaucoup de jeunes de notre âge qui découvrent Sautet. Et pour l'instant, il y a beaucoup, beaucoup de bons échos. Et pourtant, il s'était fait éreinter par la critique, par des gens de la nouvelle vague, par des gens comme Danet, etc. Et je trouve que c'est un choix assez courageux, puisque Sautet, c'est quand même du cinéma de genre. Il a commencé dans le polar pur, hein, avec des films avec Bebel, Inventura, avec des vraies gueules, hein, comme Classe Touriste, La peau et d'autres, etc. Et par la suite, il va faire des films beaucoup plus sentimentaux, beaucoup plus mélancoliques, très mélodrames. Et j'ai découvert ces films-là. J'ai commencé par Mado, l'un de ses derniers films, on va dire, avec Romy Schneider. avec un casting aussi hallucinant, entre Michel Piccoli, Jacques Dutronc, Romy Schneider, Jean Bouis, enfin toutes les gueules du cinéma français. Et c'est un cinéma qui est très tendre, mais en même temps très, très nostalgique d'une époque, avec des vrais hommes, avec des vraies femmes qui véhiculent des certains idéaux. Et il y a ce côté aussi... malgré la vie, on aura toujours des problèmes, des enchantements. Il y a souvent des problèmes d'argent chez Claude Sautet. Dans Mado, c'est des magouilles financières, immobilières, avec Michel Piccoli. Donc, ça mène un petit côté polar qui est assez bienvenu. Et du coup, on mixe entre ça et des histoires d'amour qui sont vraiment très, très belles, très romantique aussi, où c'est les hommes qui n'arrivent pas à comprendre les femmes, mais inversement, et c'est vraiment très très bon. J'ai continué par la suite avec Vincent, François, Paul et les autres.
Ah ouais, qui est moi vraiment un de mes préférés chez Sautet, qui est génial quoi.
Qui est l'un de ses
plus mythiques. Je pensais l'autre jour, quand on voit des trucs comme le cœur des hommes ou quoi, si on peut comparer, tu vois, ce truc de quatre personnages comme ça qui ont entre 30 et 40, 45 ans, c'est vrai que ça n'a rien à voir quoi. La petite double paire, là, Montand, Piccoli, Reggiani, Depardieu,
c'est du lourd.
C'est quand même assez extraordinaire.
Ah oui, ils ne tiennent pas la comparaison. Hein, les...
Et pourtant, Esposito, c'est inspiré de
Sautet. C'est pas pour parler en plus spécialement du cœur des hommes, oui, mais oui. C'est vrai que pas mal de films comme ça qu'on voit depuis une dizaine d'années
s'inspire de ces films.
Sur des gars d'une quarantaine d'années entre deux âges, etc.
L'amitié virile.
Et c'est vrai que chez Sautet, il y a quand même quelque chose en plus. Quoi.
Oui. C'est des films qui sont très très drôles. Déjà, le début de Vincent, François, Paul et les autres, avec la maison qui brûle. Enfin, y a souvent des petits incidents comme ça chez Sautet qui sont vraiment quand même de la vie, voilà, de la vérité, de la vie. On sent que c'est pas fin et on sent qu'il y a une alchimie incroyable entre ces générations. Voilà, entre Depardieu, Montand, il y a vraiment quelque chose du respect quoi, qui s'installe entre les deux. C'est très très drôle, c'est très très beau. Voilà, les histoires d'amour entre Yves Montand et Piccoli, leurs histoires de couple, leurs problèmes financiers, encore une fois, où Montand va tout perdre. Il travaille dans une menuiserie à la fin du film. Il revient vraiment au bout du compte quoi. Non, c'est vraiment des très très beaux films et puis très bien filmés quoi. Il y a un collègue à moi, Étienne Chaise, qui travaille à Rouen. Il m'a parlé un peu de la mise en scène chez Claude Sautet. C'est vrai qu'on retrouve des très bons effets sur les reflets, par exemple, un peu comme Spielberg, qui montre vraiment beaucoup de choses sur les personnages. Et c'est vraiment très travaillé, mais jamais dans les pattes, jamais dans la démonstration. On est vraiment immergé dans l'histoire avec les personnages. Et moi, ça, personnellement, ça me touche.
Et puis alors, celui qu'on a vu aussi hier, Nelly et Monsieur Arnaud.
Oui, ouais.
Là, moi, il y a autre chose que,
c'est la synthèse,
que j'ai sorti. De ce film-là que j'avais vu il y a longtemps, c'est la qualité des dialogues. Quoi.
Oui, c'est clair.
C'est la qualité des dialogues entre Serrault et Emmanuel Béart, c'est quand même vraiment des grands moments de cinéma. Quoi.
Et c'est un peu la synthèse, aussi le renouveau, puisque après Romy Schneider, c'est Nicole Garcia qui a déclaré ça l'autre jour à une présentation de Garçon, autre film de Claude Sautet, qu'après Romy Schneider, il a mis beaucoup de temps à en trouver un idéal féminin. Et c'est Emmanuel Béart qui va effectivement lui redonner la flamme, il va retrouver une muse avec elle. Il va tourner plusieurs films à la fin de sa vie avec elle. Et là, c'est son dernier film, et effectivement, dans les dialogues, on comprend vraiment toutes les relations, cet amour platonique existe entre Nelly et Monsieur Arnaud. Et encore une fois, le casting est éblouissant. Quoi. Michel Serrault, on ne l'avait jamais vu comme ça, d'une neutralité absolue. Lui qui est habitué à des rôles...
plus extravagants.
Voilà, extravagants.
Mais il est bon dans les deux.
Oui, exactement. Hein. Et là, du coup, il a eu le César, d'ailleurs, pour Nelly et Monsieur Arnaud, son troisième, hein, après Garde à vue et La cage aux folles. Et je trouve que le duo fonctionne parfaitement. Mmh. Et il y a eu quelques bonnes anecdotes. Je ne sais pas si tu en parles, du coup, avec la prochaine interview qui va venir en fin d'émission. Mais Anglade a parlé un peu des relations de travail entre Serrault et Sautet, qui étaient assez dur, puisque Sautet s'est vu imposer par la production Michel Serrault, et apparemment les deux hommes se sont vraiment bagarrés. Sautet trouvait qu'il en avait toujours trop, Serrault, ce qui n'est absolument pas le cas d'ailleurs dans le film. Et on a appris que Sautet est un très grand metteur en scène du détail. Par exemple, il a fait retravailler entièrement une salle, une pièce, il a refait entièrement la tapisserie parce qu'elle n'était pas en fait assortie à la cravate de Jory Cobb.
Qui elle était raccord. Ouais.
Voilà, donc ça montre un peu la folie du bonhomme, ouais. Et l'intransigeance de mise en scène. Donc moi je vous conseille vraiment de découvrir ça, surtout les jeunes. C'est vachement drôle en plus, enfin, on se fait pas chier, hein. C'est pas vraiment le cinéma français intimiste qu'on connaît dans les appartements. Hein. Donc c'est vraiment une très bonne surprise.
Il y a de quoi piocher dedans, c'est vrai que ça fait à la fois, voilà, il y a une petite marque Sautet, mais en même temps je pense que voilà, vous pouvez très bien apprécier certains films, d'autres beaucoup moins, enfin, c'est quand même un cinéma assez riche finalement. Quoi.
Et je le rapprocherais bizarrement de James Gray, moi. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose entre les deux, et dans le côté voilà, polar, rapport humain et surtout mélodrame. quelque chose à tisser. Donc, aller voir sauter, je pense que les places, ça en reste encore, puisque tout le monde veut Almodovar et compagnie.
Et puis, il y a le choix, il y a 13 films, il y a un documentaire sur, sur lui. Et, alors, et c'est vrai que c'est un réalisateur qu'on n'a pas l'habitude de voir beaucoup à la télé non plus, hein, depuis pas mal de temps. Donc, c'est l'occasion justement du festival de redécouvrir ce genre de réalisateur.
Alors, François, de ton côté, tu es allé voir aussi pas mal de films là, depuis le début de la semaine.
Exactement, oui. Alors, hier... j'ai surtout apprécié un film qui, c'est étonnant que je n'avais jamais vu, c'est Le Canardeur de Michael Cimino, qui est son premier film. Quand je dis étonnant, c'est que je suis un très grand fan d'Eastwood.
Thunderbolt et Bigfoot, c'est ça?
Thunderbolt et Lightfoot.
Lightfoot.
Ouais. Avec Clint Eastwood et un très grand rôle d'Eastwood, un très grand film de Michael Cimino. Pour la petite histoire, donc c'est son premier film. Il débarque un peu à Hollywood avec le scénario en se disant que ça va être très facile de tourner un film et de le réaliser et d'obtenir des acteurs pour ça. Il est un peu naïf dans sa démarche. Et Eastwood lui dit simplement, je te donne ta chance en tant que jeune réalisateur. Par contre, dès la minute où tu ne me plais pas, où je sens que tu ne feras pas l'affaire, que tu ne vas pas générer le tournage, tu te retrouveras à la porte. Et le deal est parti comme ça, et le film allait jusqu'au bout. Et on est vraiment dans ce genre de film. Ça m'a beaucoup rappelé L'Épouvantail de Jerry Schatzberg, où tu as deux personnages qui sortent de nulle part, qui sont complètement paumés et qui finissent nulle part, hein, sans rien révéler sur le film. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre de Cimino. Ouais.
Et puis vraiment marqueur d'une époque, quoi, Nouvelle Hollywood,
complètement,
Clint Eastwood, Nouvelle
c'est
Génération.
Marqué Nouvelle Hollywood, c'est vraiment marqué Nouvelle
le
Hollywood.
Le Road Movie.
Road Movie, ces personnages complètement paumés. Ouais.
Ok, écoutez, je vous propose qu'on écoute une première chanson et on se retrouve après pour la deuxième partie de Confluence Cinéma spécial Festival Lumière. Brume 90.7, deuxième partie de cet entretien Confluent Cinéma consacré au Festival Lumière 2014, dont Pedro Almodovar Et le héros qu'on n'a pas encore vu dans les travées du festival.
Il est un peu de partout, hein. On entend beaucoup parler espagnol.
Ouais, vous savez un petit peu quand il arrive, l'ami Pedro et
vendredi,
toute sa bande.
C'est sûr, en tout cas. Vendredi, il est à masterclass.
Il y a des rumeurs sur vendredi uniquement, enfin à partir de vendredi et pas avant.
Ouais, le week-end, comme Tarantino, c'était un peu l'exception. Il est venu pour tout le festival en gros cinéfilm, mais Almodovar, on ne sait pas.
Alors, qu'est-ce que vous êtes allé voir d'autre, messieurs? Il y a Capra, quand même, qui est mis un
Capra
petit peu
qui est mis
en avant, à l'honneur.
Bien sûr, avec une dizaine de films. Alors, j'ai pu voir pour l'instant Monsieur Smith au Sénat uniquement, qui est un film de 1939 dans lequel un très très jeune James Stewart incarne un jeune sénateur un peu naïf dont c'est le premier voyage à Washington pour voter une loi. Bien sûr, il est utilisé par des hommes de pouvoir de sa région. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, en fait, c'est que c'est un film qui est sorti donc en 1939. Donc le nazisme est déjà en place en Europe. Et c'est un film qui est complètement, pas anti-américain, mais contre le système qui était en place à l'époque, un système très corrompu. On a même un gag à un moment où il y a des Allemands qui sont présents dans la salle en uniforme nazi, qui sont d'accord avec ce que va dire Monsieur Smith. Alors, ils sont d'accord pas sur le fond de ses propos, mais sur le fait qu'ils se révoltent, je pense, un peu contre toute cette institution.
Le système.
Contre le système. Et c'est un film qui est marquant, parce que je trouve que c'est toujours d'actualité. Le propos n'a pas bougé.
C'est House of Cards avant l'heure.
C'est House of Cards avant l'heure. Sauf qu'on est du côté du héros et pas de l'anti-héros. Mais oui, c'est House of Cards.
Mais en même temps, si je m'abuse, chez Capra, ce film-là, je vais le revoir dans quelques jours. Je l'ai vu il y a très longtemps, mais ce qu'il faut dire, c'est quand même aussi une foi optimiste chez Capra, quand même aussi une institution qu'on peut les critiquer, mais en même temps croire en politique, dans des grands sujets.
Il y a une forme d'optimisme, mais c'est vrai qu'il y a un journaliste qui est venu le présenter, dont j'ai oublié le nom, et qui lui était plutôt contre ça. Il pense qu'il y a plus une forme de réalisme, mais pessimiste, parce que on a beau avoir ce personnage naïf qui va quand même défendre la bonne cause de sa campagne. En fait, c'est un personnage qui vient pour créer un camp pour les enfants, pour les scouts, pour leur inculquer plein de bonnes choses. Et il se retrouve à devoir combattre une sorte d'arnaque financière sur des personnes qui sont censées construire un barrage sur le terrain qu'il avait choisi pour le camp. Et malgré le fait que tout va bien se passer pour lui, tu te rends compte que c'est pas parce que ton combat sera gagné que la guerre le sera forcément, quoi. Donc il y a une forme d'optimisme, mais qui est très temporaire. Le film va plutôt vers une certaine forme de pessimisme à force.
Oui, c'est un peu comme Carpenter, quoi. C'est optimiste à court terme, mais pessimiste à long
terme. Optimiste à court terme.
Bah, après, ce qu'il y a, c'est que, enfin, moi, Capra, j'ai vu qu'une ou deux choses de lui, mais c'est vrai que c'est pas un cinéaste qui semble remettre forcément en question l'ordre établi de l'Amérique, notamment de cette période-là, non plus. Même s'il a un regard critique et que c'est plein de sensibilité et tout, mais c'est voilà, je crois même qu'il connaissait bien Roosevelt, etc. Enfin. Voilà, il était assez proche des démocrates.
C'est un fils d'immigrés italiens, donc cette époque-là, il a commencé en bas de l'échelle.
Il va plutôt attirer ton attention sur peut-être des problèmes de société, mais tout en te disant, c'est comme ça, ça ne changera pas.
Quoi. Mais en même temps, c'est aussi un grand optimiste. On disait que c'est l'homme qui voyait toujours le verre à moitié plein, et pas moitié vide. Et justement, c'est un grand cinéaste des fables, comme La vie est belle.
Oui, comme La vie est belle, ou L'homme de la rue.
Voilà, ou de comédies, de fables, de contes. Et je veux juste rappeler que l'Institut Lumière a vraiment ciblé, en fait, sur les années 30, apparemment, sur l'œuvre de Capra. Il y a juste La vie est belle et son dernier film avec Spencer Tracy, donc je crois que c'est L'Enjeu, qui sont des années 40, mais tout le reste, c'est vraiment années 30. Et voilà, je pense qu'il faut découvrir ça aussi. Et ça peut être bien pour une nouvelle génération de comprendre aussi les fonctionnements de la politique américaine ou autre, quoi.
Oui, bien sûr.
Ah. Alors, Raphaël, de ton côté, tu es allé voir hier, je sais, la nuit des bandes annonces. Tu peux nous en parler
On l'a vu avec François. Enfin, cette fois-ci, ce n'est pas une mini-nuit, c'est
une soirée.
Ouais, un court-métrage, comme nous a présenté Axel Brucker. Hein.
Puisqu'on était sur du 1h34, je crois.
Mais plus court, je crois. 1h20, je crois que c'était.
1h20, ouais, au lieu de 3h, je crois, il y a 2 ans. Ouais,
ouais, c'était ça. Ouais. Et donc, Axel Brucker est un Belge assez frappé qui a collectionné au cours de sa vie 25 000 bandes annonces en 35 mm. Il avait l'habitude de faire faire, il y a de ça quelques années, des grandes nuits de la bande-annonce, un peu comme les publivores, hein, les nuits de la publicité.
Qui duraient 5 à 6 heures.
Ouais. C'était frappé, quoi. Jusqu'au petit matin, ils se tapaient 400 bandes-annonces. On avait eu la chance à l'époque d'avoir une première sélection d'Axel Breuker qui durait donc 3 heures. Et le bonhomme a pour habitude de tout mélanger, quoi. Donc on avait du Mr Bean qui rencontrait du Zifarelli, qui rencontrait le parrain et Pretty Woman, quoi. Et là, il revient avec une sélection beaucoup plus courte. C'est une volonté de Thierry Frémaux de faire un programme beaucoup plus court. Et c'est bien dommage parce que moi, perso, 3-4 heures, ça ne me fait pas peur. Hein. J'adore les bandes annonces. C'est quelque chose.
Okay, si on fait des pauses, oui.
Oui, évidemment. Évidemment. Et c'est extrêmement. Voilà, ça fait partie du cinéma, quoi. Il l'a très bien dit, quoi. C'est du cinéma, comme les fauteuils font partie du cinéma.
Exactement.
C'est un tout, voilà. Quand on aime le cinéma, on aime tout. Et les bandes annonces, voilà, appellent déjà au fantasme d'un film et frappent déjà l'inconscient collectif avant même sa sortie, quoi.
Alors, il y avait une particularité sur la soirée d'hier. C'est que c'était une soirée centrée sur les teasers, donc c'est très court de bande-annonce qui ne donne pas forcément beaucoup d'informations sur le film, qui sont là pour te donner envie, sans te parler de l'histoire, comme c'est beaucoup le cas maintenant. Et on a pu voir quelques petites pépites.
Ouais, des fois des courts-métrages, qui n'avaient rien à voir avec le film, tourné exprès, comme le Miraculé de Mocky, qu'on avait déjà eu le droit la dernière fois.
Exactement.
Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi?
Des teasers pour les bronzés.
Oui, les teasers des bronzés qui sont super, tournés exprès, les bronzés 1 et les bronzés font du ski. Beaucoup de bandes annonces en langue étrangère, donc on a eu le droit à La Folie des Grandeurs en anglais, Cyrano von Bergerac.
Le Gazon Maudit en espagnol.
Oui, Gazon Maudit en espagnol, on a beaucoup rigolé. Beaucoup aussi de pays représentés, l'Espagne évidemment avec Almodovar, on a eu aussi les films anglais. Un peu de tout, quoi, au final, comme d'habitude chez Breuker, avec beaucoup de bandes annonces complètement folles, avec Yiddish Connection qui m'a fait mourir de rire, où ils prennent un accent juif pour dire attention, elle est filmée, elle est cotée bien chère, il faut aller le voir. Enfin, je sais pas le faire, mais c'est très très drôle en tout cas dans l'extrait. Et il y en a une qui m'a marqué aussi, c'était celle de Mr Bean sur Schwarzenegger et Stallone qui m'a fait beaucoup rire. Et voilà.
Et il y a une petite perle quand même, c'est pas un teaser pour un film, c'est un teaser pour. Quelque chose qui devait être un peu l'équivalent de la fête du cinéma dans les années 80. C'est un extrait du Père Noël est une ordure, doublé en japonais.
Ouais, c'est très 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 bon. Ouais.
Pour une exploitation française, où ils ont probablement utilisé des images du film, mais plutôt que de refaire un doublage français par-dessus pour t'expliquer quelque chose où ça n'aurait pas été possible, ils l'ont doublé en japonais et sous-titré en français.
Ouais, c'est ce qu'il appelait, je crois, extrêmement bizarre dans la sélection, quoi.
C'est ça.
Et c'est très, très drôle. Et encore une fois, il y a une bonne ambiance. Le public réagit bien, tape des mains. Enfin, c'est super, quoi. Et j'espère que Thierry Frémaux et le Festival Lumière le fera venir vraiment tous les ans. Parce que 25 000 bandes annonces, il peut tenir peut-être 10 ans, quoi. Et voilà, c'est vraiment un rendez-vous.
Faudrait que ça devienne un rendez-vous incontournable du festival, c'est sûr.
Et puis la salle était pleine. Hein,
on va peut-être parler un petit peu de ce qui va se passer dans les jours à venir. Qu'est-ce que vous avez marqué à l'encre de vos stylos, messieurs, un petit peu là, dans tout ce qui arrive jusqu'à dimanche?
Almodovar, là, je crois, là, les films d'Almodovar, enfin, moi, je vais m'en taper quelques-uns, surtout ceux du début. Il y a pas mal de petites perles, comme il y a Pépi, etc., Lucy Baum. Qu'est-ce que c'est?
Alors, il y a Isabella Rossellini aussi, on n'en a pas parlé, mais qui vient présenter plusieurs choses.
Présenter Blue Velvet, entre autres.
Ouais, les films de son père aussi, un documentaire sur Roberto Rossellini. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a une masterclass de Pedro Almodovar qui va arriver, qui a été annoncée dernièrement.
La nuit alien, évidemment.
Qui va être très inconfortable hein, dans cette salle Tony Garnier.
Ce qu'a dit Axel Breuker, qu'est-ce qu'on a mal au cul? Enfin, il a osé le dire hein, quand même, le gars hier. Et il y a Keanu Reeves pour un documentaire sur le passage du 35 mm au numérique, avec plein de réalisateurs, Fincher, David Lynch, Scorsese.
George Lucas.
Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et on sent le fan de Star Wars, là. Et il va nous évoquer ça, et il est très attendu. Il y a une grosse attente autour du personnage, et je pense que c'est mérité, quoi.
Et puis plein de copies restaurées encore. Il y a SOS Fantôme.
Ouais, Massacre à la tronçonneuse, Rambo.
Exactement. Voir Rambo à l'Institut Lumière, c'est un peu
C'est la consécration, oui.
C'est une consécration.
Eh bien, écoutez, messieurs, merci bien, en tout cas, pour vos éclairages sur ce début de festival.
Merci à toi.
J'espère que vous allez faire attention quand même le soir à la plateforme, hein, parce que je sais que vous êtes des amateurs de ce lieu où se rejoignent un petit peu les festivaliers, les stars et autres.
Et on aime beaucoup les blind tests.
Et on adore les blind tests et on soutient le blind test.
Ah, ça, c'est une private joke. Mais...
Bon, eh ben écoutez, en tout cas, on se retrouve dès mercredi prochain pour faire là un gros bilan avec voilà, critiques, interviews et tout ce qu'on aura pu vivre pendant cette semaine.
En profondeur sur les films.
Et dans la troisième partie de Confluence Cinéma, on vous laisse avec quelques petites interviews que j'ai pu faire ces deux premiers jours, avec notamment, dans l'ordre, si je me rappelle bien, Jean-Hugues Anglade. Ensuite, il y a Monsieur Anconina, Vincent Pérez et pour finir Laurent Gérard, habitué du festival. Voilà, bah écoutez, très bonne semaine à vous et à très bientôt sur Brume.
Au revoir,
à bientôt.
Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous intéresse dans que ce soit la programmation ou un petit peu ce festival?
Je crois qu'il y a une singularité dans ce festival qu'il n'y a pas ailleurs, dans les autres festivals. Il y a une sorte de passion pour le cinéma qui prime avant tout, une sorte de bouillonnement, d'envie, d'énergie. Tout ça fait avec beaucoup, mis en œuvre et chapeauté par Thierry Frémaux qui fait un travail qui n'en est plus un, quoi, qui est vraiment qui fait de du cinéma un événement vital, quoi, quelque chose qu'il essaye de transmettre et qu'il parvient très bien à transmettre, parce que je crois que c'est un festival dont les Lyonnais sont fiers, et ils ont raison, parce que c'est un, un festival extrêmement particulier et assez charismatique. Voilà.
Et alors, dans les réalisateurs présents cette année, ou en tout cas programmés, comme Capra ou d'autres, il y en a particulièrement qui vous touchent?
J'aime beaucoup Amar Almodovar, évidemment. Je n'ai pas pu véritablement regarder en détail tout ce qu'allait offrir le festival, mais je tiens à rappeler, à signaler qu'il y a aussi des colloques divers et variés autour des films et sur la musique de films. Je sais qu'il y en a un là aujourd'hui avec Michel Legrand, qu'il y a des opportunités de voir des films, et que c'est dans cet état d'esprit-là qu'est effectivement a été conçu ce festival. Inviter évidemment des personnalités vivantes, mais en même temps aussi demander à ces personnalités de parler du cinéma qui les ont eux-mêmes inspirés. Et voilà, donc une sorte de chaîne du cinéma comme ça qui est magnifique. Voilà.
Alors Richard Anconina, bonsoir. Moi j'avais une petite question aussi sur le film. C'était vous, plus personnellement, comment vous avez appréhendé ce personnage-là finalement?
J'ai suivi les directives d'un metteur en scène et d'un bouquin qui existait dans une histoire. J'ai fait mon travail d'acteur. Je savais que c'était quelque chose d'important, très important, puisque je jouais avec une personnalité très forte, Coluche, un phénomène social. Et donc j'ai appréhendé ça avec beaucoup de sérieux, beaucoup d'humilité et beaucoup de sérieux, beaucoup d'application.
Et est-ce que dans votre carrière, c'est un personnage, un rôle qui vous a marqué?
Comptez énormément. Il y avait avant Ciao Pantin et après Ciao Pantin.
Ce festival Lumière, justement, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous touche dans ce festival? C'est vrai que vous venez régulièrement.
Ce qui me touche, c'est ce que fait Thierry Frémaux, c'est la capacité qu'il a à réunir des gens d'univers totalement différents, de les mettre à la même table et de justement ce choc des rencontres, des cultures et des d'univers différents, c'est ça qu'il aime mettre sur la table. Et je trouve qu'il est comme Michel d'ailleurs, comme Coluche. C'est ça qui me plaît.
Alors Vincent Pérez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous venez donc présenter l'extravagant Mr. Deeds, film de Frank Capra. Pourquoi avoir fait ce choix de film?
J'ai choisi l'extravagant Mr. Deeds de Frank Capra parce que Frank Capra était vraiment pour moi dans ma vie très important. C'est vraiment le cinéma de Frank Capra a peut-être contribué à ce que j'ai envie de faire du cinéma. C'est un cinéma qui me bouleverse, qui m'a bouleversé. C'est un cinéma qui m'a bercé. Enfin, je veux dire, c'est Frank Capra. Et donc, tout naturellement, je suis allé vers ce film-là. Il y avait plein d'autres films que j'avais envie de présenter, mais c'est vrai que c'est l'occasion de me replonger un petit peu dans l'univers de Capra, de faire des petites recherches. Pour pouvoir en parler un petit peu, me replonger. Alors il a ce livre formidable qui s'appelle Hollywood Story, qu'il a écrit, que je conseille à tout le monde. Alors vous avez plein d'anecdotes dans ce bouquin-là. Si vous aimez le cinéma, si vous aimez Frank Capra, il faut le lire. Voilà, parce que j'aime Frank Capra. Ça fait partie de son cinéma social, humaniste, je dirais, et à message, un cinéma à message. Donc c'était le premier de la série. Donc voilà, peut-être pour ça, ça tombe bien que ce soit celui-là. Puis avec un Gary Cooper incroyable, charismatique au possible, au sommet de sa carrière, enfin d'une beauté incroyable, enfin bon, juste, c'est merveilleux, quoi. C'est juste merveilleux. Ce matin, je suis allé voir La Vie est belle. C'est vrai que j'aurais pu présenter La Vie est belle aussi, quoi. La Vie est belle, c'est incroyable, parce que quand on voit ce film, on a juste, c'est juste la quintessence même de la puissance émotionnelle du cinéma, quoi. C'est juste extraordinaire, parce qu'on pleure. Chaud de larmes dès le début et en riant, quoi. On rit, on pleure. C'est un cinéma. En fait, ce qui est merveilleux avec son cinéma, c'est qu'il tient des promesses. Il tient ses promesses. Voilà. Parce qu'un film, en fait, c'est une succession de promesses qu'on fait au spectateur et lui, il les tient toutes.
Qu'est-ce qui vous touche dans ce festival? Qu'est-ce qui vous plaît?
Pour les amoureux du cinéma, c'est. Moi, je dis toujours, et je le pense sincèrement, c'est le plus beau festival du monde. Parce que on fait revivre des films, des chefs-d'œuvre, des films du passé, des films qu'aujourd'hui, on ne verrait qu'en vidéo ou qu'à la télé. Donc, on peut les revoir tels quels, comme à l'époque, dans des versions remasterisées, dans des copies neuves. On est dans la salle avec d'autres personnes, on revoit ces films, on découvre ces films, et il y a une force émotionnelle incroyable. Ce qui est fou, c'est que moi je suis content, j'aime dire que je suis un membre fondateur du festival parce que je suis là depuis le début. C'est merveilleux parce qu'en fait les gens ils ont envie de ça. Toutes les salles sont pleines, toutes les salles de Lyon qui projettent des films du festival sont pleines.
Alors bonjour Laurent Gérard, moi j'avais une petite question. Donc, vous êtes un peu un des piliers, si on peut dire, du Festival Lumière. Comment vous...
J'ai la chance d'être membre fondateur.
Voilà. Et comment vous voyez du coup l'évolution un petit peu de ce festival qui prend de plus en plus d'ampleur?
C'est un rendez-vous incontournable pour partager des moments mythiques du cinéma, je dirais, parce que même, par exemple, je parlais d'Ida Lupino, mais c'est vrai que c'était... Ils sont des cinéastes majeurs, c'est aussi beaucoup de fou rire avec Bertrand Tavernier. C'est plein de belles choses, c'est un cinéma de partage, voilà. C'est un festival de partage et partager les belles choses. Et de voir les films dans les salles, je le redis, parce que c'est la vocation première du cinéma.
Et alors cette année, c'est Pedro Almodovar aussi qui est mis à l'honneur. C'est un cinéaste, un réalisateur qui vous touche particulièrement?
Pas forcément, mais bon... moi je suis assez éclectique, c'est pas le cinéaste que je préfère, mais je suis très heureux qu'on le mette à l'honneur parce qu'il a du talent. Je reconnais le talent. Après, vous savez, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer les westerns alors que le western fait partie de l'histoire du cinéma.
Et alors, comment vous avez fait le choix des films, donc Itinéraire d'un enfant déchu ou le film que vous avez présenté hier, un petit peu cette année, qu'est-ce que vous avez voulu vous mettre en avant et présenter au public?
Ben, vous savez, Le désordre et la nuit, j'adore Gilles Grangier parce qu'en plus, il était dénigré par la nouvelle vague, donc il ne pouvait pas être foncièrement mauvais. Et puis, Portrait d'une enfant déchu, c'est parce que je l'ai vu récemment. On a eu l'occasion, grâce au festival, de rencontrer Jerry Schatzberg, ce qui fait que voilà, j'avais envie de le présenter.